Quand un enfant commence sa carrière d'écolier, au début il trouve que tout est difficile. Et puis, au bout d'un certain temps, il se sent à l'aise avec l'environnement et ce qu'il apprend. Seulement voilà, à la rentrée suivante, il passe dans la classe supérieure et le programme est plus corsé que l'année précédente. Et ainsi de suite. Dans la vie, on n'a pas le droit de stagner, car il faut toujours aller de l'avant. C'est vrai dans le domaine physique et intellectuel, mais aussi spirituel. Je continue à lire dans le chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers la perfection, la maturité spirituelle, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire le renoncement aux actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Versets 1 et 2. L'auteur mentionne six caractéristiques qui ne sont pas des vérités chrétiennes élémentaires, mais qui font partie du fondement de l'Ancienne Alliance. Nous avons déjà vu les deux premières et la troisième est l'enseignement sur les différents baptêmes. Le mot traduit par baptême est baptismos et veut dire ablution, tandis que le baptême chrétien est baptizo. Non, je ne coupe pas les cheveux en quatre. Donc, l'emploi de baptimos plutôt que baptizo montre que ce passage ne s'adresse pas à des croyants, mais à des Hébreux. À l'entrée de tous les foyers juifs se trouvait un bassin réservé à l'usage de la famille et des visiteurs pour les ablutions cérémonielles qui étaient nombreuses dans le judaïsme et qui servaient à se purifier. Mais l'auteur exhorte maintenant ses lecteurs à se détacher de ces pratiques anciennes. Un prophète de l'Ancien Testament avait annoncé qu'un jour le peuple de Dieu serait rendu pur grâce à une ablution spirituelle. Je lis le passage. « Je répands sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Cette eau pure est une image de la nouvelle naissance et du renouveau induit par le Saint-Esprit dont parle l'apôtre Paul quand il dit « Dieu nous a sauvés en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, en nous renouvelant par le Saint-Esprit. » Alors que les ablutions de l'Ancien Testament étaient fréquentes, symboliques et temporaires, la nouvelle naissance est unique, permanente, parce qu'elle correspond à une réalité éternelle. La quatrième caractéristique qui fait partie du fondement de l'Ancienne Alliance est l'imposition des mains. L'Israélite qui venait au temple pour offrir un sacrifice devait poser la main sur l'animal afin de s'identifier à lui symboliquement. Mais, sous la Nouvelle Alliance, les croyants sont identifiés à Jésus par la foi grâce au baptême de l'Esprit. Voilà pourquoi l'auteur exhorte ses lecteurs à abandonner les rites et surtout les sacrifices et à placer leur confiance uniquement en Jésus. La cinquième caractéristique du fondement de l'Ancienne Alliance est la résurrection des morts. En fait, cet enseignement était très superficiel. La vie après la mort est mentionnée sans plus, tout comme les récompenses pour les justes et les châtiments pour les hommes impies. Aucun détail ne nous est donné sous l'Ancienne Alliance. Dans le Nouveau Testament, par contre, la résurrection est un enseignement important, car c'est grâce à Jésus qui est la résurrection et la vie que les croyants ressusciteront. C'était aussi le sujet principal des prédications des apôtres. Dans une de ses épîtres, Paul parle longuement de la résurrection et il décrit même le corps des croyants quand ils reviendront à la vie. L'auteur dit donc aux Hébreux de ne pas essayer de sonder l'Ancien Testament pour chercher à comprendre la résurrection, sachant que les vraies réponses se trouvent en Jésus-Christ et dans l'enseignement des apôtres. L'Ancien Testament parle très peu du jugement éternel. Un texte dit simplement que Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. En d'autres mots, les justes seront récompensés et les méchants punis. Par contre, le Nouveau Testament nous donne un enseignement très détaillé sur le jugement éternel, un peu trop même au goût de certains. en ce qui concerne les croyants. Et comme je l'ai déjà noté, l'apôtre Paul écrit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Quant au jugement des non-croyants, il existe de très nombreux passages dont certains vous glacent le sang. Enfin, nous savons aussi que tout jugement a été remis à Jésus-Christ. Le point crucial des deux premiers versets du chapitre 6 de cet épître est que les Hébreux non-croyants doivent abandonner entièrement les symboles élémentaires de l'Ancienne Alliance afin de saisir la réalité parfaite et éternelle de la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament était une révélation de Dieu partielle et maintenant que le judaïsme a été abrogé et déclaré caduque, il doit être entièrement abandonné. Je continue le texte. « C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. » Verset 3. L'auteur veut dire que Dieu voulant, il va enseigner aux Hébreux ce qu'ils doivent faire afin qu'ils adhèrent sans réserve à Jésus-Christ et deviennent ses disciples accomplis. En fait, tout dépend du bon vouloir de Dieu et de l'action du Saint-Esprit dans la vie de ces Juifs. Dans une épître, et en parlant de son travail missionnaire, l'apôtre Paul écrit « Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur vos cœurs. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. Il n'y a aucun mal à prévoir et planifier en vue de réaliser un projet quelconque. Au contraire. Mais, quels que soient mes désirs, Dieu me demande de me placer sous sa coupe en tenant compte de sa souveraineté car au final, c'est lui qui décide. L'apôtre Jacques remet bien les pendules à l'heure quand il écrit « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve ? Qu'est-ce que votre vie ? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite ? Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Fin de citation. Je continue l'épître aux Hébreux. En effet, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante, et fait l'expérience des puissances du monde à venir et qui, pourtant, se sont détournés de la foi, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, c'est-à-dire à changer d'attitude. Versets 4 à 6. Nous revoilà devant le passage menaçant. Les Hébreux à qui ces paroles sont adressées se sont approchés de Dieu de cinq manières différentes et il est intéressant de remarquer qu'aucune de ces expressions n'est utilisée ailleurs dans le Nouveau Testament pour parler du salut. Voilà pourquoi il n'y a pas de bonne raison de penser que ces gens avaient reçu la vie éternelle. Premièrement, ils ont été éclairés, ce qui signifie qu'intellectuellement, ils ont perçu la vérité. Le mot grec traduit par « éclairer » signifie « être illuminé par la connaissance », ce qui ne veut pas dire qu'on accepte ou rejette ce qui est enseigné. Quand Jésus a commencé son ministère, il est allé en Galilée, dans le nord de la Palestine, accomplissant ainsi une prophétie d'Ésaïe qui dit que le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Effectivement, tous ceux qui ont entendu Jésus ont vu cette grande lumière, pourtant tous ne l'ont pas acceptée. Les Galiléens ont reçu un éclairage spirituel, vu Jésus et ses miracles de leurs propres yeux et entendu son enseignement, ils ont été très privilégiés puisque la lumière en personne avait pénétré dans les ténèbres des Juifs du premier siècle et pourtant Seuls quelques-uns ont cru en lui. En second lieu, ces Hébreux ont goûté aux dons célestes. Il s'agit du Christ lui-même et des bénédictions du salut qui l'accompagnent. L'apôtre Jacques écrit « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Pourtant, après avoir examiné ce don de Dieu qu'ils ont humé de près, ils ne l'ont pas pris. On peut goûter un vin de plusieurs manières, en humectant ses lèvres, en le faisant rouler dans sa bouche avant de le recracher comme font les œnologues, les goûteurs professionnels. On peut aussi s'en délecter et après avoir savouré et dégusté une bonne gorgée, on l'avale. Il est écrit de Jésus qu'il a goûté la mort et on sait qu'il ne s'est pas contenté de l'approcher de près, mais il l'a subi totalement. Il a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie et a été englouti par le sépulcre. Goûter à Jésus-Christ du bout des lèvres, pour ainsi dire, n'apporte pas le salut. Ce sont ceux qui le boivent dans sa totalité, qui l'acceptent sans réserve, qui sont sauvés. Alors qu'il se trouvait en Galilée, Jésus a dit « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. » Goûter n'est pas manger, et la vie éternelle ne consiste pas à penser que Jésus était quelqu'un de bien, mais à placer toute sa confiance en lui. Dieu attire les hommes à lui en leur donnant un avant-goût du salut. La première fois que je me suis trouvé en compagnie de croyants et qu'ils m'ont expliqué ce que le Christ représentait pour eux, j'ai tout de suite compris ce qu'ils croyaient, comment ils vivaient et quelles seraient les implications si je plaçais ma foi en Jésus. J'étais éclairé. J'avais goûté au salut sans pour autant l'accepter. Ensuite, j'ai réfléchi, hésiter et batailler avant de finalement céder au Saint-Esprit. En troisième lieu, les Hébreux ont eu part au Saint-Esprit. Le mot traduit par « avoir part » exprime une communauté de biens ou de personnes. Il est utilisé pour des collaborateurs, collègues de pêche et pour les compagnons angéliques de Jésus. Les Hébreux avait été dans la présence du Saint-Esprit, ce qui ne veut pas dire qu'il était en eux. On peut être associé au Saint-Esprit et même contribuer à son œuvre sans être un enfant de Dieu. D'ailleurs, le Nouveau Testament ne dit jamais que les croyants sont associés au Saint-Esprit, mais qu'il habite en eux. En quatrième lieu, les Hébreux ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante. Littéralement, il est dit qu'ils ont goûté sa parole. En général, le mot pour parole est « logos », mais ici, l'auteur utilise « rhéma » qui désigne une partie du « logos ». Ces Juifs ont entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais ils se sont crus dans une sorte de cafétéria religieuse et, se laissant guider par leurs croyances ancestrales, ils ont pris ceci et laissé cela en choisissant de ne retenir que ce qui leur chatouillait agréablement les oreilles. Ils participaient aux réunions de l'église locale, manifestaient un intérêt pour ce qu'on leur disait, ils y réfléchissaient même, mais finalement ils s'en sont lassés. Ils ont goûté la parole puis l'ont mise de côté. Celui dont le cœur est ouvert au Seigneur n'agit pas ainsi, mais accepte toutes les Écritures. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et un prophète de l'Ancien Testament écrit « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur. » Fin de citation. La première fois que quelqu'un a mis l'évangile de Jean entre mes mains, je le lisais et relisais très lentement et ensuite j'ai fait pareil avec les psaumes, les savourant un à un, verset après verset. Mais les lecteurs auxquels l'auteur s'adresse ont fait la fine bouche à l'exemple du roi Hérode qui régnait sur la Palestine. En effet, dans l'évangile, on lit qu'il craignait Jean-Baptiste. Il savait que c'était un homme juste et saint, il le protégeait donc. Quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe, et pourtant il aimait l'entendre. Mais cet intérêt n'était pas bien profond. Quand sa femme lui a demandé la tête de Jean-Baptiste, il a été chagriné, et c'est à contre-cœur qu'il l'a écouté, mais il a quand même fait exécuter cet homme qu'il savait juste et saint. Sa responsabilité est donc entière, car il aurait pu refuser, mais il a délibérément choisi d'abandonner Jean-Baptiste ainsi que son message. C'est bien de goûter la parole de Dieu, mais ça ne suffit pas, il faut l'accepter dans sa totalité, même quand elle dérange, et surtout si elle dérange. Bien des gens sont impressionnés par l'Évangile et par Jésus. Ils aiment lire le Sermon sur la montagne, très bien, mais c'est aux autres de le mettre en pratique. Alors au bout d'un temps, ils s'en lassent et finissent par devenir indifférents à toute la parole de Dieu. En cinquième lieu, ces Hébreux ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Littéralement, ils ont goûté les puissances du monde à venir. Ces Juifs ont assisté à des miracles et des prodiges qui caractériseront le futur royaume de Dieu sur terre, le millénium quand Jésus sera roi sur le monde entier. Ces Hébreux sont tout aussi coupables que les badauds qui regardaient Jésus guérir les malades, mais restaient sur la touche sans prendre parti parce qu'ils étaient seulement venus assister à un spectacle. Jésus a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse ». Les chefs religieux savaient très bien que Jésus avait ressuscité Lazare et certains d'entre eux avaient assisté à ce prodige. Eh bien, au lieu de reconnaître en lui le Messie, et aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ont décidé de les tuer tous les deux. Jésus savait très bien qu'éventuellement il devrait mourir. Quant à Lazare, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Je continue le texte. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des puissances du monde à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, à changer d'attitude, car par leurs actions, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu pour leur propre compte, et le déshonore publiquement. Versets 6 à 8. L'auteur s'adresse toujours aux Hébreux non-croyants qui savent que la bonne nouvelle est la vérité, mais qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus-Christ. Il les exhorte à s'engager résolument pour Jésus-Christ, car au point où ils en sont et avec les connaissances qu'ils ont acquises, s'ils reculent et retournent dans le judaïsme, Dieu les abandonnera et ils n'auront donc plus l'occasion de se repentir et d'être sauvés. On a essayé de tempérer le mot grec pour impossible en le traduisant par difficile. Mais plus loin, ce même mot est utilisé dans les phrases « Il est impossible que Dieu mente »,« Il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés » et encore « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Dans ces expressions citées, il serait aberrant de remplacer impossible par difficile. Il en est de même dans le passage qui nous occupe. Celui qui comprend la bonne nouvelle, mais qui n'accepte pas Jésus comme sauveur, finit par s'endurcir et devenir imperméable au message du salut qui perd alors tout intérêt pour lui. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le montrer, ce passage ne s'adresse pas à d'authentiques croyants et donc il ne parle pas de la possibilité de perdre le salut. À ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, l'apôtre Pierre écrit « Il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qui garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Si la puissance de Dieu ne pouvait pas nous garder en vue de la vie éternelle, nous n'aurions aucune espérance. Mais, selon les Écritures, les croyants possèdent une espérance vivante qui ne peut pas disparaître. En effet, d'une part, ils ont été sauvés par la mort du Christ, mais d'autre part, comme Jésus est ressuscité et intercède pour les siens, sa vie et sa présence à la droite de la majesté divine sont une garantie qu'ils ne peuvent pas se perdre en route. L'apôtre Paul écrit « Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Ce passage menaçant de l'Épître aux Hébreux ne s'adresse pas à ceux qui ont fait profession de croire en Jésus et qui sont tombés dans le péché. J'en connais quelques-uns qui mènent une vie de bâton de chaise, mais aussi grave que cela puisse être, ils ont toujours l'occasion de se repentir. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un qui avait été croyant mais dont le comportement laissait beaucoup à désirer s'il croyait toujours en Jésus-Christ. Il m'a répondu « Je sais bien que je ne mène pas une vie droite, mais j'espère toujours en Jésus pour mon salut. » Cette épître est d'abord destinée à des Juifs dont certains couraient un grave danger parce que non seulement ils hésitaient à s'engager pour Jésus, mais ils songeaient aussi à retourner dans le judaïsme. L'auteur est très sévère envers eux parce que s'ils font cet affront à Dieu, après qu'il leur ait montré tout ce qu'il voulait leur donner, ils n'auront pas de seconde chance. Il n'y a guère d'espoir non plus pour celui qui sait tout concernant le Christ et qui choisit de lui tourner le dos. Heureusement, en général, il n'est pas possible de savoir avec certitude si telle ou telle personne a déjà atteint le point de non-retour. Je crois en connaître plusieurs, mais je ne peux pas en être absolument sûr, et comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.